L'Amérique. Keep America great. Avec Valérie Beaudoin.
But before going any further, I want to thank all of you for your prayers. I know you've been praying, and I was in that hospital. I was watching down over.
Rassemblement devant la Maison Blanche hier et Valérie Beaudoin de retour en ce dimanche. Bonjour Valérie.
Et bonjour Paul.
Alors, chose importante, hier, le médecin de Donald Trump, président des États-Unis, a affirmé qu'il n'était plus contagieux.
Oui.
Il n'a pas dit qu'il était guéri. Il a dit qu'il n'est plus contagieux. Nuance.
Oui, t'as très bien raison de le mentionner parce qu'on a, on n'a pas d'idée quand ont été les derniers tests pour savoir justement comment le virus, est-ce qu'il est toujours présent dans Donald Trump et aussi quand est-ce qu'il l'a eu. Alors vraiment, là, la chronologie, c'est pas encore très, très clair. Mais chose certaine, le président s'est présenté hier sur le balcon de la Maison-Blanche. Il y avait quelques centaines de personnes sur la pelouse devant lui. Et je dois dire qu'il avait l'air en forme, mais ça a duré moins de temps qu'à l'habitude. Hein. On parle d'un discours de 18 minutes. Donc, il s'est présenté devant des supporters, surtout des gens de la communauté afro-américaine, latino-américaine, parce qu'il tente d'avoir ce vote. J'ai même appris quelque chose que je connaissais pas. Alors, il veut que les gens de la communauté noire viennent au Parti républicain. Il y a un mouvement qui s'appelle le Blackxit. Alors, comme le Brexit, mais c'est le mouvement afro-américain qui quitterait le Parti démocrate pour rejoindre le mouvement républicain. Donc ça, c'est vraiment son objectif. Et la thématique, oui, c'est assez... la thématique était la loi et l'ordre, hein, un de ses objectifs assez... disons, un message de campagne assez fort. Et on a aussi parlé du Canada, Paul. Je ne sais pas si tu as écouté et tu as remarqué, il y a une mention du Canada. Il y a aussi une mention de la science, des médecins qui pourraient aider à faire disparaître le virus. Je vous laisse entendre le président Trump hier à la Maison-Blanche.
Through the power of the American spirit, I think more than anything else, science, medicine will... eradicate the China virus once and for all. We'll get rid of it all over the world. You see big flare-ups in Europe, big flare-ups in Canada, very big flare-up in Canada. You saw that today.
Hey, mais il a pensé à nous. Mais en disant donc, et il a raison sur l'Europe en tout cas, parce qu'au nombre de cas en France, plus de 27 000 hier. Alors, voilà. Mais j'ai noté une autre chose, parce que je l'ai écouté en direct. À un moment donné, il a traité Joe Biden et les démocrates de socialistes.
Oui.
Et il y a quelqu'un qui lui a crié de la foule communiste. Et il a dit, il y a quelqu'un qui vient de me dire communiste, puis il est parti à rire.
Exactement, je l'ai entendu moi aussi parce qu'il a
rendu
dit...
loin, là. Joe Biden, un communiste.
C'est ça, que c'était le socialisme radical, puis que les États-Unis, ça allait disparaître pratiquement. C'est souvent le message, hein, qui ressort des derniers discours parce que c'était, oui, un discours à Maison-Blanche, mais je pense que vous allez être d'accord avec moi que c'était un discours qui était très politique, très à la rassemblement qu'on a normalement, justement, sur la route du président.
Et là, il s'en va en Floride. Et nous arrivons mardi, là, à 3 semaines de l'élection.
Oui, bon, on sent peut-être la panique dans le camp de Trump parce qu'on a parlé des sondages. Récemment, là, il y en a un dernier qui est sorti de ABC, 12 points d'avance pour Joe Biden. Il y en avait la semaine passée 14 points d'avance, 10 points d'avance. Donc, c'est clair que le président réalise que ça va pas bien et il veut retourner faire ses fameux rassemblements parce que pour lui, ça fonctionne et il ne doit pas se cacher, mais vraiment être là sur la route. Il va se rendre à plusieurs endroits, en Floride demain, en Pennsylvanie par la suite, en Iowa. Alors, pour quelqu'un qui vient d'avoir la COVID-19, j'espère qu'il va être en forme parce que c'est quand même un gros mandat cette semaine, en plus de ses tâches comme président, de faire le 3 États différents pour aller parler vraiment à ses supporters et tenter d'augmenter dans les sondages à 3 semaines de l'élection.
Là, je vais sauter ton prochain sujet, Valérie, sur Biden, parce que je veux qu'on finisse avec ça, mais quand même, parce que le lien que je fais, c'est que c'est encore la confusion et l'incertitude. Oui ou non, y aura-t-il un plan de relance pour les Américains d'ici l'élection?
Et imaginez, là, il y a des millions, des dizaines de millions d'Américains qui ont soit sans emploi, qui ont de la difficulté à mettre de la nourriture sur la table. Et c'est vraiment, là, aux États-Unis, une crise, pas juste sanitaire, mais aussi une crise financière, vraiment, qui touche énormément d'Américains. Et là, on s'entend toujours pas pour un plan de relance. La semaine dernière, le président, en sortant de l'hôpital, qui a dit, c'est mort, le plan de relance, il n'y en aura pas avant l'élection. C'est de la faute des démocrates. Donc, il a essayé de jouer ça politique. Et j'ai l'impression qu'on lui a dit, ben, c'est peut-être pas la bonne idée parce que vous voulez vous baser votre élection sur l'économie qui va bien aller, sur le relancement économique, mais si on laisse les Américains et les entreprises sans plan de relance, ben c'est pas ça qui va arriver, puis ça va être de votre faute. Alors là, il a vraiment fait une proposition et imaginez-vous, 1,8 trillion, ça c'est 1 800 milliards de dollars, et les Républicains, et les démocrates ne sont pas d'accord.
Oui, même les républicains du côté du Sénat, là, on crie en disant non, on veut. On n'est même pas d'accord avec, en fait, leur candidat.
Exactement. Ils disent que c'est trop et les démocrates disent que c'est pas assez. Le président qui essaye d'aller avec ses négociateurs dans le milieu. Et il y a Mark Meadows qui est le chief of staff, alors le chef de cabinet du président, qui aurait dit à plusieurs personnes qui étaient présentes, j'espère que vous allez parler en bien de moi à mes funérailles parce que je dois aller retourner voir le président et lui dire que des deux côtés, ça fonctionne pas, donc il y aura pas de plan de relance.
Trump et ses partisans, Valérie, tiennent un bon filon sur Joe Biden, qui est de plus en plus, enfin, louvoyant lorsqu'on le questionne sur ses intentions s'il devient président à la Cour suprême. C'est-à-dire, est-ce qu'il voudrait pacter la Cour suprême, augmenter le nombre de sièges, le nombre de juges à la Cour suprême? Et Biden ne répond pas directement. Et les républicains là, sentent que voilà une question qui va être sensible pour attaquer Biden.
Oui, et on l'a vu aussi dans le débat entre Kamala Harris et Mike Pence, parce qu'il l'a mis un peu dans un coin là en lui posant la question « Est-ce que vous allez augmenter le nombre de juges à la Cour suprême? » Et pour expliquer très rapidement aux gens, on a 9 juges à la Cour suprême. La majorité, c'est Amy Coney Barrett. C'est elle qui devient l'autre juge et qui va remplacer Ruth Bader Ginsburg. La majorité sera conservatrice. Alors, ce que les républicains accusent les démocrates de vouloir faire, c'est d'augmenter le nombre de juges. Et ça se fait relativement facilement par une loi. Donc, on n'est pas obligé dans la Constitution d'avoir 9 juges. Alors, eux, ils pourraient dire, on est élu, on rajoute 3 juges de plus qui ne sont pas conservateurs. Donc, ça pourrait aller comme ça d'élection en élection. Et Biden, je trouve qu'il ne répond pas bien à ça. Honnêtement, j'ai l'impression qu'il se tire un peu dans le pied avec sa campagne, surtout avec cet extrait que je vais vous faire entendre. Soyez très, très attentifs parce que ce n'est pas très bon, le message qu'il envoie aux électeurs.
Well, sir, don't the voters deserve to know
where he's at? No, they don't. I'm not going to play his game. He'd love me to talk about, and I've already said something on Corpac. He loved that to be the discussion instead of what he's doing now.
Alors, si je peux traduire très rapidement, il dit, est-ce que les électeurs devraient pas savoir c'est quoi votre intention avec la Cour suprême? Et là, il commence sa phrase en disant, non, les électeurs devraient pas le savoir. Et là, il essaye de se reprendre en disant, que c'est une stratégie des républicains pour cacher ce qu'ils font en ce moment. Et il a aussi dit que la nomination d'Amy Coney Barrett, c'est inconstitutionnel, ce qui est pas le cas non plus. Donc, j'ai l'impression qu'on va devoir trouver une meilleure réponse.
Ouais. Et comme tu l'as dit, Valérie, ces réponses-là doivent venir rapidement. Il y a un débat d'annulé cette semaine. On devait avoir M. Biden et M. Trump qui s'affrontent à Miami. C'est annulé carrément. Et là, on entre dans la période critique, Valérie. 3 semaines seulement.
Exactement. Alors, toutes ces petites phrases, ces petites gaffes vont vraiment ressortir dans le reste de la campagne. Alors, vraiment, les deux candidats qui doivent faire très, très attention à ce qu'ils vont dire aux électeurs là, dans les prochaines semaines.
Jean-Marc Léger, qui est avec nous, la semaine dernière, disait « Oubliez jamais les surprises d'octobre, Valérie. » October surprise.
Oh, je pense qu'on en a pas mal, non, Paul?
mais rappelez-vous, en 2016, les courriels d'Hillary qui sont arrivés à la dernière minute. Hein?
Et Access Hollywood aussi, qui est arrivé au mois d'octobre.
Oui, mais ça n'a pas eu beaucoup d'effet sur Trump.
Un petit effet.
Un petit effet, mais... On a semblé passer les ponts. Par contre, pour Hillary Clinton, ça lui avait fait très mal en fin de parcours.
Oui, parce que à la fin du mois d'octobre même, c'était un peu tard, disons.
Merci Valérie.
Merci, au revoir.
Au revoir, 9h47.